Ah, bienvenue tout le monde, ça va bien? On a pris le temps de se réchauffer un petit peu ce matin, hein? C'est le fun? J'aime ça. Ce matin, on continue dans le livre de Daniel. Et là, je dois vous le dire, si c'est la première fois que vous venez à l'église ici, vous n'êtes pas tellement familier avec le livre de Daniel. Écoutez, on rentre dans une section qu'on pourrait appeler, certains l'appellent comme ça, l'Apocalypse de Daniel, d'accord? Alors, si vous aviez le goût d'entendre des affaires bizarres dans une église, vous êtes à la bonne place ce matin. On s'en va dans une section bizarre de la Bible, l'Apocalypse de Daniel. Et en fait, c'est quand même assez nouveau, même pour l'Assemblée ici, pour l'église. Rarement, on a fait des exposés bibliques sur des portions de la Bible qu'on appelle un genre apocalyptique. D'accord? Peut-être que vous êtes familier avec le mot apocalypse, vous pensez à l'apocalypse de Jean, à la fin de la Bible complètement. Mais en fait, l'apocalypse de Jean, c'est un genre aussi, on appelle ça un genre apocalyptique, parce qu'il y a d'autres apocalypses dans un sens à l'intérieur de la Bible. Et dans cette période-là, quelques siècles, on trouvait aussi ce genre-là à l'extérieur de la Bible. Et ça, je mentionne ça parce que tout à l'heure, on va aller un petit peu plus là-dedans. Il faut savoir des choses sur ça. Autrement, ça peut être pas mal drôle ce qu'on fait dire à un livre comme celui-là, d'accord? On peut vraiment s'en aller un peu partout. L'Église, à travers l'histoire, depuis 2000 ans, c'est souvent appliqué à aller un peu partout avec ce livre-là, d'accord? Donc, il y a eu beaucoup d'annonces de prophéties qui s'accomplissaient imminemment, très, très bientôt, puis on recommence 50 ans après, d'accord? Donc, c'est vraiment un genre particulier. Mais en même temps, c'est une fenêtre. C'est une fenêtre que Dieu ouvre pour Daniel et pour nous sur les temps à venir. Les temps à venir pour Daniel, puis dans une grande mesure, les temps à venir pour nous aussi. Fait que c'est assez fantastique d'aller là. Alors, je ne m'étire pas plus longtemps. Je vous laisse découvrir ce beau passage-là. Simplement apprécier la lecture que notre ami Jérémie va nous faire. Allons vers la parole de Dieu.
Donc, le passage biblique de ce matin est tiré du livre de Daniel, au chapitre 7, nouvelle édition de Genève. Donc, Daniel, au chapitre 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici, les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. » Il avait trois côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, L'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternel, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirai savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait sur sa tête, et sur l'autre qui était sortie de devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici, finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur.
Merci, Jérémie. On va aller ensemble dans la prière. Père éternel, tu es l'Ancien des jours, celui qui siège dans les cieux et qui, au milieu d'une humanité troublée, s'assoit et règne. Juge les hommes, les nations, les royaumes qui passent. Tu es celui qui préside au destin de l'univers et de l'humanité. Tu es celui qui élève et qui rabaisse les hommes qui pensent eux-mêmes être entièrement souverains sur leur propre destin. Seigneur, je veux te demander de venir parler à nos cœurs par ton Esprit Saint ce matin. Aide-nous, Seigneur, à recevoir cette révélation que tu as donnée à Daniel. Et Seigneur, comme Daniel fut troublé, viens troubler nos cœurs. Comme Daniel fut touché, Seigneur, viens toucher nos cœurs. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Comme je le mentionnais tout à l'heure, On arrive dans une nouvelle partie du livre de Daniel. Avant, c'est toute une partie qui est un petit peu plus narrative, où on a un récit. Puis il y a des songes, c'est vrai, mais c'est situé dans le temps. On voit ce qui est en train de se passer, un roi qui reçoit un songe, un autre roi, tout ça. Et puis Daniel est là pour interpréter. Et jusqu'à présent, si vous avez été avec nous là, depuis le début dans Daniel, ce qu'on a vu, c'est que Dieu se révèle de manière vraiment surnaturelle, à travers bien souvent des songes. Dieu se révèle aux rois, non pas les rois juifs, des rois païens, et à travers eux, Dieu se révèle aux nations. Parce que ces rois-là, devant ces révélations-là, vont publier dans le royaume qu'il faut reconnaître que Dieu est le Dieu suprême, au-dessus de tous les dieux, au-dessus de toutes les divinités qu'on a pu concevoir, il y a un Dieu suprême. Et donc, jusqu'à présent, essentiellement, Dieu se révèle à travers Daniel et des songes aux nations. Puis on arrive dans une nouvelle portion où Daniel, qui est habitué d'interpréter les songes, va avoir besoin que ses propres songes qui lui sont donnés par Dieu soient interprétés pour lui. Parce qu'à partir de ce moment-ci, dans le livre de Daniel, si Dieu, avant ça, a parlé premièrement aux nations, Dieu parle maintenant premièrement à son peuple, à Daniel et à tous les saints de Dieu à travers les anges. Intéressant, hein? Et donc, ce que Dieu fait, c'est qu'il ouvre une fenêtre à Daniel. Il ouvre une fenêtre qui va lui permettre d'avoir une perspective sur, je vais l'appeler comme ça, d'accord, parce que c'est énorme, sur le conflit cosmique qui attend les saints, qui attend l'histoire des hommes. Et il ouvre une fenêtre aussi sur celui que nous avons appris à connaître, qui est le roi des rois, celui à qui toute domination est confiée. Et il fait ça à travers des images grandioses et mystérieuses. Ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est que Dieu donna à Daniel un aperçu du conflit cosmique à venir et du roi des rois que nous avons connu comme chrétiens, et c'est notre privilège. Alors parlons un petit peu juste du genre apocalyptique. Si vous n'avez aucune idée de ce que c'est, bien, vous allez faire des choses spéciales avec ce livre-là, d'accord? J'ai appelé ça une tempête apocalyptique à l'horizon. Une belle manière de l'illustrer, c'est quasiment un jeu de mots. Un commentateur disait ceci, un enseignant de la parole de Dieu disait ceci, c'est un petit peu comme si dans Daniel de 1 à 6, on était en train de lire un livre, et puis à partir du chapitre 7, on ferme le livre et on s'en va au cinéma. D'accord? Donc on passe de la littérature au cinéma, en quelque sorte. Et il faut le comprendre comme ça. Si on dit qu'une image vaut 1000 mots, bien les images qui sont offertes à Daniel valent 10 000 mots. D'accord? Et donc, c'est un petit peu ça qui est en train de se passer. Dieu va parler à travers des images impressionnantes. Soyez attentifs, je vais essayer de souligner dans le passage là où Dieu veut que nous mettions l'accent. Lorsque nous, on lit ça puis on se dit, « Wow, il y a des images incroyables. Écoutez, on peut faire des toiles là-dessus, on peut faire des dessins avec ça, on peut faire un paquet d'affaires absolument incroyables. Des êtres fantasmagoriques incroyables qui sont là. » Et pourtant, tout ça, c'est pas mal en filigrane, c'est pas mal en arrière-plan, parce que le message que Dieu voulait livrer à Daniel, c'était pas de pouvoir décortiquer chacune des bêtes dans ses détails. Un interprète, en fait, est venu parler à Daniel pour lui dire ce qu'il devait en retirer. Et Daniel a bien compris tout ce qu'il avait à comprendre. Mais simplement pour souligner le fait qu'on parle en images, Daniel 7, versets 2 à 4, Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle, et je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. » Voyez-vous, il va parler constamment en images. Si je pouvais le traduire pour notre époque, pensez un petit peu à de la peinture, d'accord? C'est pas tout le monde qui est maniaque de peinture, puis il y a des styles plus contemporains qui se sont développés. C'est un peu moins accessible, avouons-le. Alors, j'aimerais ça qu'on affiche juste une toile de Picasso. Si on parle de Daniel, puis on parle du genre apocalyptique, c'est pas tout à fait du Picasso, d'accord? On va afficher 2 images plutôt avec Salvatore, des toiles de Salvatore Dali. Je penserais plutôt à du Dali, moi, quand je pense au genre apocalyptique, d'accord? Picasso, difficile, puis je suis injuste avec Picasso parce qu'il a fait vraiment beaucoup de choses très différentes, des choses extrêmement belles aussi. Mais il y a du Picasso qui, bon, des fois, tu te demandes qu'est-ce qu'il faut avoir pris vraiment pour décoller. Mais dans le cas de Dali, ça n'en prend pas tant que ça, tu sais. Tu peux aller loin, tu peux aller loin. Donc, pour moi, ça ressemble un petit peu à ça, d'accord? Si vous pensez au genre apocalyptique, on n'est pas à l'endroit où je vais pouvoir tout saisir, mais il y a beaucoup de choses que je peux saisir. Et les images qui vont me parler très, très fort. Et on a une clé déjà dans le passage. C'est important. Oui, les théologiens, les pasteurs, les érudits ont étudié le genre apocalyptique avec la littérature à l'extérieur des Écritures aussi, où on a trouvé des genres apocalyptiques, tout ça. Mais la meilleure manière de commencer lorsqu'on veut interpréter les Écritures, c'est de chercher à interpréter les Écritures à partir des Écritures. Quand le passage lui-même te donne des clés pour comprendre le texte, surtout dans des genres qui ne sont pas nécessairement très accessibles, c'est super important d'y être attentif. Et donc, si on va au verset 15 à 17, ici j'ai un serviteur de Dieu, un ange, qui est en train de donner une explication à Daniel. Donc, comme je vous ai dit, Daniel n'est plus à l'endroit où il est capable d'interpréter lui-même ses songes, mais il a besoin qu'on les interprète pour lui. Et donc, verset 15, « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. » Vous comprenez? Il saisit que, pensez à mon image de Dali, c'est pas exactement ça qui va se passer, donc, comment je dois comprendre ça? Qu'est-ce qui va se réaliser réellement dans tout ça? Est-ce que vraiment il va y avoir un lion énorme qui va se promener à la surface de la terre? Je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit et m'en donna l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront sur la terre. Et donc déjà, cet être céleste-là est en train de donner une clé à Daniel. Il est en train de lui dire, ce sont des images que tu as ici. Ces images-là te parlent de choses à venir, de choses grandioses, mais de choses aussi qui peuvent être très terre à terre, comme des royaumes d'hommes, des gouvernements, des empires qui s'établissent, qui s'installent. Et donc, on a une clé qui nous dit, quand tu arrives dans un genre apocalyptique comme ça, tu travailles avec des images, d'accord? Il faut que tu saisisses que ce sont des images et tu ne pourras peut-être pas expliquer chacun des détails absolument de ces images-là. Je veux dire quelque chose tout de suite ici parce qu'on a dans la salle ici, vous savez que des fois je suis un petit peu baveux, on a dans la salle ici des experts en eschatologie, d'accord? On a dans la salle des gens pour qui les passages les plus savoureux de la Bible sont ces passages eschatologiques. Et moi, ça n'a pas été mon expérience avec l'eschatologie du tout, d'accord? Je me suis converti, je suis devenu chrétien dans les quelques mois au début de ma vie chrétienne. On m'a exposé à des interprétations, puis on a sorti des grandes cartes puis des grands tableaux, puis on s'est mis à m'expliquer absolument tous les détails de ce qu'il y avait dans la Bible, dans un système parfait où tout s'expliquait et toutes les pièces du puzzle entraient ensemble de manière parfaite. Ça ne fonctionne pas bien avec un gars comme moi, ces affaires-là. Quand je suis en train de voir quelque chose qui a une part de mystère, j'ai tendance à dire « il va rester une part de mystère ». D'accord? Et donc, ma première expérience avec l'Église qui interprète les passages eschatologiques, je vous avoue que celle-là n'a pas été très, très bonne. Ça m'a assez effrayé, puis je me suis dit, si des gens aussi matures que ça, dans la foi, font ça avec des passages comme ça, je pense que je vais attendre un bout de temps avant d'étudier ça. D'accord? Alors, moi, je suis vraiment à l'autre bout. Certains d'entre vous, vous vous délectez de ça, c'est absolument délicieux, puis vous lisez les temps, les moments, l'histoire, les gouvernements, vous interprétez tout ça. Ça n'a pas été mon expérience à moi. Moi, je me suis dit, oh boy, il y a quelque chose de dangereux qui est en train de se passer ici. Je sens qu'il y a plus de mystères que tous les mystères qu'on voudrait révéler. D'accord? Et ça a été mon expérience. Donc, je vous le dis tout de suite, vous ne trouverez pas en moi quelqu'un qui va vous donner la clé finale avec la date et l'heure. D'accord? Des grands moments et de tous les gouvernements. Parce que je n'ai jamais pu lire le genre apocalyptique de cette manière-là. Intuitivement, je saisissais assez tôt qu'il y avait une part de mystère dans ça qui devait le demeurer. Et plus j'ai étudié la théologie, plus j'ai étudié la Bible, plus cette, cette lecture-là a été confirmée. D'accord? L'autre chose que je veux dire aussi, c'est que ce matin, je vais vous laisser sur votre faim. C'est certain que je vais vous laisser sur votre faim, mais je vais vous mettre l'eau à la bouche. D'accord? Vous voyez ça comme un teaser. C'est bon? C'est un teaser parce que dans la prochaine année, il va suivre l'Apocalypse de Jean aussi. D'accord? Et on va revenir sur Daniel, on va se promener, parce que c'est très, très clair que c'est une révélation et qu'il y a des thèmes qui se recoupent ici, d'accord? Alors, il y a des choses qu'on n'aura pas le temps d'explorer ce matin. On va tracer quelques grandes lignes. On va y revenir dans les prochaines semaines. On n'a pas fini avec Daniel. Le genre apocalyptique n'est pas terminé. On va y revenir aussi, d'accord? Mais une chose qui est claire, qu'il faut savoir concernant le genre apocalyptique, c'est que c'est un genre dramatique. Il y en a ici qui aiment les films à l'eau de rose. Il y en a ici qui aiment les films comme moi, des Marvel, qui finissent toujours avec le bon qui va vaincre le méchant. Puis il y a des gens ici qui aiment les drames. Tu sais, plus c'est dramatique, meilleur c'est. Peut-être que vous n'aimez pas le fantastique, mais là ici, vous avez le fantastique puis le dramatique combiné à fond. D'accord? Chaque fois que vous arrivez dans la Bible, soit dans une vision, soit dans un livre, qui est dans le genre apocalyptique, vous savez que vous êtes dans un livre dramatique. C'est toujours une tempête qui est annoncée. Ça va se résorber, mais on va passer plus de temps dans la tempête que dans le soleil, d'accord? Et donc ça, c'est important de le savoir aussi. Le genre est comme ça, il annonce des moments dramatiques. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que je crois qu'une des leçons, sinon la leçon, la plus importante du livre, est accessible. Et je vais le dire comme ceci. C'est très, très important de réaliser que Daniel n'est pas troublé par ce qu'il ne comprend pas. À la fin de sa vision, Daniel est profondément troublé. Il est complètement bouleversé. Nous, lorsqu'on tombe sur un livre comme ça, on se dit, écoute, il n'a plus dormi, il a plus fait une nuit de sommeil paisible après avoir vu ces beasts-là absolument effrayantes. Daniel n'a pas été troublé profondément par ce qu'il ne comprenait pas. Il a été troublé par ce qu'il comprenait. Et Daniel a pu comprendre à la fin du songe, puisqu'il a été interprété, si l'interprète valait quelque chose, je ne vais pas offenser personne au ciel, Daniel a pu comprendre ce qu'il devait comprendre. C'est que le peuple de Dieu est engagé dans un conflit cosmique. Et ce peuple-là va souffrir dans les siècles à venir. Mais Dieu règne. Et la victoire est assurée à la fin. Et c'est très important, lorsque vous lisez ce chapitre-là, si vous quittez le passage avec un paquet d'autres affaires que ça, je vais vous le dire comme je le pense, les amis. Vous êtes passé à côté. Vous êtes passé à côté de l'intention de l'auteur divin qui est l'Esprit Saint de Dieu dans le message premier qu'il veut transmettre à travers le texte. C'est important ce que je vous dis là. À l'Église de l'Espoir, comme dans plein d'églises, on cherche à exposer les Écritures. Et donc, lorsque moi je vais vers le passage, quel qu'il soit, dans un passage flyé comme celui-là ou dans quelque chose de terre à terre, ma première mission à moi, c'est de lire le passage à la lumière du contexte lui-même et de poser une question qui doit m'obséder tout le long de ma lecture. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Pas qu'est-ce qui m'intéresse dans le texte. Après ça, je peux faire tout le reste aussi. Je peux m'amuser, je peux explorer, je peux fouiller, je peux aller partout là-dedans. Mais lorsqu'on parle d'enseignement par exposition de la Bible, mon mandat, c'est de plonger dans les Écritures pour en exposer l'idée principale, l'idée première. Et ensuite, lorsque je viens et je fais un exposé biblique, je ne fais pas toujours le meilleur travail, mais si j'ai fait une bonne job ce dimanche-là, vous partez avec l'idée principale du passage. Et moi, ce que je vous dis, c'est que même si Daniel est dans une expérience assez fantastique, assez fantasmagorique, Daniel a reçu dans son expérience absolument ce qu'il devait en recevoir et il a compris ce qu'il devait en comprendre. Ce qui l'a troublé le plus, ce n'est pas ses images fantastiques, c'est qu'il sait et il comprend maintenant que même si les 70 semaines de Daniel arrivent à leur terme, même si Israël est sur le point de retourner une partie du peuple en Terre Sainte, n'est pas la paix qui s'en vient encore. C'est pas la paix qui s'en vient encore. Le conflit cosmique entre les royaumes de la terre et le royaume de Dieu n'est pas terminé. Il va continuer encore longtemps et Daniel en est profondément troublé. Juste une petite piste que je vous donne parce que je ne peux pas voir tous les éléments. Une chose qui aide à comprendre ce qui est en train de se passer ici, c'est de réaliser qu'il y a véritablement un parallèle entre le songe de la grande statue qui est donné à Nebuchadnezzar, notre chum Nebu. Ce songe-là qui lui est donné, il y a un parallèle ici avec les royaumes assez évident. Vous pourrez prendre le temps juste de les lire en parallèle et ce qui est en train de se passer ici. Mais comme je l'ai dit au début de l'exposé, ce qui est en train de changer, c'est la perspective. Dans la vision de la statue des royaumes à venir, de la pierre qui se détache et qui vient fracasser ça, qui éventuellement va être le royaume de Dieu, un royaume universel, le royaume de Dieu, le sujet ou l'auditeur qui est visé, c'est le roi des nations, c'est le roi de nations païennes. Dans ce deuxième songe-là, qui est présenté autrement avec des bêtes, tout ça, l'auditeur qui est visé, celui pour qui le message est donné, c'est pour Daniel, le peuple de Dieu. Et donc, la perspective qui nous est donnée, ce n'est pas simplement la chute des nations, des royaumes qui prétendent être cette belle statue qui se construisent et qui peuvent être en fait fracassées assez simplement par une intervention de Dieu, mais c'est beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qui se passe dans cette dimension-là spirituelle? Quelle est la guerre, le conflit spirituel qui est derrière tous ces royaumes-là? Derrière les saints, le peuple de Dieu qui veut annoncer le royaume de Dieu au fil des siècles. Et donc, c'est ça la perspective qu'on a ici, d'accord? Vous pouvez prendre le temps juste d'aller les lire en parallèle. Mais Daniel saisit l'essentiel de ce qu'il doit saisir. Un conflit cosmique, universel, est engagé entre l'Ancien des jours et ses saints et les royaumes des hommes. Des royaumes s'élèveront contre Dieu. Au verset 11, on lit « Je regardais alors » à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Écoutez, c'est évident, tu ne peux pas lire ça sans saisir ce que Daniel a saisi. Un royaume après l'autre vont venir dans l'histoire de l'humanité. Avant même de chercher à comprendre de quel royaume il est question, un royaume après l'autre vont venir et vont s'opposer à Dieu, consciemment ou non, parce que c'est dans la nature du cœur humain d'avoir une rébellion, un désir d'autonomie profond qui dit « Non, ce n'est pas toi qui vas gouverner ma vie, c'est moi qui vais la gouverner. » Et c'est pour ça que depuis le début de la série, j'insiste sur cette image de la couronne que j'ai sur ma tête. D'accord? Dieu crée les hommes à son image avec ce potentiel, cette capacité de gouverner ma vie, de gouverner ma maison, de décider, d'entreprendre, de rêver, de construire, de bâtir une famille, de bâtir une ville, de bâtir un gouvernement, de bâtir un empire. Dieu nous a créés avec cette capacité-là absolument extraordinaire. Mais constamment, ce qu'on voit à travers Daniel, c'est ce conflit dans le cœur de l'homme entre l'homme et Dieu. Dieu qui dit à l'homme, reconnais que tu es ainsi, tu as été créé ainsi, tu as cette liberté extraordinaire de pouvoir t'élever au-dessus des animaux et bâtir parce que je te l'ai donné. Cette couronne qui repose sur ta tête, dans ton cœur, tu dois toujours être prêt à la retirer puis à la déposer pour reconnaître que tu n'es pas en fait le souverain. Il y a un souverain au-dessus. Et donc, dans cette vision que Daniel a, je crois que Daniel expérimente une tristesse profonde, une détresse de réaliser que le conflit n'est pas sur le point de s'arrêter. Avec la fin des 70 semaines, avec le retour d'Israël à Jérusalem, le conflit ne va pas s'arrêter là. Il va continuer jusqu'à l'accomplissement de toutes choses, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la consommation ultime du royaume. Appelez-le comme vous voulez. Mais on est loin de la fin. Et donc, c'est ça qu'on est en train de voir ici. Ce thème-là est constant dans les Écritures. Un beau passage qui aide à comprendre le passage de ce matin, je ne pourrais pas m'étirer beaucoup dans l'explication, c'est le psaume 2. Alors, je vous lis juste 4 versets pour aller lire le psaume 2. C'est vraiment très éclairant pour cette vision-là. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint, contre celui qu'il a choisi, contre celui qu'il a établi comme roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, disent-ils. Celui qui siège dans les cieux, celui qui siège dans les cieux, l'ancien des jours, se rit. Le Seigneur se moque d'eux. Il faudrait aller continuer à lire la suite parce qu'il parle de son oint qu'il va établir. Alors, je vais vous dire ma lecture de ce qui est en train de se passer ici, je crois, est grandement alignée sur la lecture que l'ange donne, d'accord? L'ange nous dit, ces bêtes-là qui vont venir, ce sont des rois, ce sont quatre rois, puis va venir un autre roi, puis leurs pouvoirs vont leur être enlevés, mais ils vont encore subsister. Et à travers les anges, l'Église a cherché, à chaque siècle, à chaque époque, à aller beaucoup plus loin dans l'interprétation. Puis à dire, non, moi je connais le nom de ce roi-là, je connais le nom de ce roi-ci, je connais le nom de ce roi-là, et celui-là, il s'en vient. On arrive à la fin. Et ça donne toutes sortes de lectures, d'accord? Alors, Vous avez eu la grande réforme protestante, 15e, 16e siècle. Pour plusieurs des grands réformateurs, c'était très clair. La dernière corne, avec ses 10 cornes, ses 10 rois, ses 10 royaumes, c'est le pape, c'est très, très clair, c'est le pape de l'époque. D'accord? Je ne me moque pas quand je dis ça du tout, vous allez voir où je m'en vais. Après ça, Jean Calvin, qui était un autre des grands réformateurs, il dit non, pas du tout. Tout ça s'est arrêté avec l'Empire romain. Les 4 royaumes sont, de manière indéniable, l'Empire babylonien, les Mèdes et les Perses, les Grecs et puis l'Empire romain. Pourquoi? Parce qu'après l'Empire romain vient celui qui va être établi comme le roi des rois. Wow, une piste! On s'en va vers quelqu'un qu'on connaît comme étant le roi des rois. D'accord? Et je pourrais vous sortir des dizaines et des dizaines d'interprétations. Ma compréhension, c'est que la manière sage de lire ce passage-là et de comprendre le genre apocalyptique, c'est que il y a probablement une réalisation spécifique à ces images-là. Probablement que dans un premier temps, puis d'une manière prépondérante, il y a effectivement un royaume à identifier pour chacun de ces royaumes-là. Mais le genre apocalyptique nous apprend que bien souvent, les images vont trouver plusieurs réalisations. Les mêmes images vont trouver plusieurs réalisations à travers le cours de l'humanité, à travers l'histoire de l'humanité. Si je tiens à lire ça en disant « voici, ce sont ces 4 royaumes-là, tout est accompli, ça se termine là », à un certain moment donné, je suis en train de lire le texte, puis là, ça ne fait plus de sens, d'accord? Il est communément accepté dans l'Église en général depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, un peu moins de 2000 ans, l'Empire romain est tombé un petit peu plus loin, communément accepté que les 4 royaumes représentent probablement l'Empire babylonien, les Mèdes et les Perses, les Grecs et puis les Romains. D'autres ont dit non, il y a l'Empire babylonien, il y a les Mèdes, il y a les Perses, puis il y a les Grecs, avec les cités grecques, tout ça. Donc, il y a différentes interprétations. Mais généralement, l'Église va reconnaître que ça s'est essentiellement réalisé dans un premier temps-là. Si je m'arrête là, j'ai des difficultés. J'ai des difficultés parce que si ces 4 bêtes-là, ce sont ces 4 empires d'hommes-là, seulement et spécifiquement, le texte me dit que les 3 premiers se virent retirer leur pouvoir, le 4e fut entièrement détruit, puis les 3 premiers subsistèrent encore pour un temps. Là, ça ne marche plus, là, mon affaire. Si c'est Babylone, Babylone est derrière, comprenez-vous? Et donc, cette image-là très, très forte va revenir après dans le livre de l'Apocalypse, tout englobé à l'intérieur d'une seule bête. J'ai hâte qu'on aille vers l'Apocalypse. Donc, je crois que la bonne manière de lire le genre apocalyptique dans plusieurs de ces images, c'est de reconnaître qu'il y a probablement des réalisations spécifiques, peut-être principales même, à certaines des images, d'accord? Dans le livre de l'Apocalypse de Daniel, dans l'Apocalypse, tout ça. Il y a probablement une réalisation spécifique, mais en même temps, elles peuvent avoir plusieurs accomplissements qui vont revenir dans l'histoire des hommes. Et donc, je crois que si je peux voir l'avènement du roi des rois qui suit l'Empire romain, tout ça, à l'intérieur de cette lecture-là, je dois aussi reconnaître, par exemple, lorsque je m'en vais avec la corne et puis tout ça, Je dois reconnaître que si je peux identifier un antéchrist, je vais pouvoir en identifier plusieurs aussi. Et c'est ce que Jean nous dit. Il y en a plusieurs aujourd'hui, des royaumes et des rois et des hommes qui s'élèvent contre Dieu ouvertement, consciemment. Si vous pensez que l'Empire romain est impressionnant, je pourrais vous nommer plusieurs empires qui sont venus depuis, s'opposant catégoriquement, ouvertement, entièrement à Dieu. Et plus grand et plus puissant encore. Et donc, je crois qu'il y a plusieurs accomplissements subséquents qui vont venir. Et c'est la manière sage de lire cela. Ce qu'il faut saisir clairement, c'est qu'il va y avoir un conflit. Ces royaumes-là, consciemment ou non, vont faire la guerre aux saints. Vont faire la guerre au peuple de Dieu. Et c'est ce qui se produit. C'est ce qui s'est produit avant l'arrivée de Christ. Et c'est ce qui se produit après l'arrivée de Christ aussi. D'accord? Et donc, de chercher le moment où ceux qui veulent marcher avec Dieu vont avoir la cote de popularité sur la terre, c'est une belle utopie, une grande utopie qui va s'accomplir, en fait, seulement à la fin totalement des temps. Parce que ce conflit-là perpétuel va continuer. Ils feront la guerre aux saints. Et pauvre Daniel, il espérait que la guerre achevait, qu'il allait retourner en Israël, que son peuple allait retourner, que le royaume allait être consommé et qu'enfin Israël allait vivre en paix avec Dieu éternellement. Dans ce beau passage-là, on a une fenêtre extraordinaire sur l'Ancien des jours. C'est l'autre élément qu'il faut voir aussi. C'est le premier élément, c'est de réaliser qu'en fait, il y a un conflit cosmique qui est engagé et qui va se perpétuer. Il y a l'Ancien des jours qui apparaît là et écoutez, il n'y a pas beaucoup de discussion à savoir c'est qui l'Ancien des jours. C'est celui qui est là depuis toujours. C'est celui qui est assis. C'est celui qui siège sur un trône, qui est entouré de milliers, de milliers, de milliards de gens qui sont là et qui le célèbrent. C'est celui qui préside au milieu des flammes. Les flammes qui, dans la Bible, représentent soit le jugement, soit la purification. Et donc, l'Ancien des jours est assis. Il préside et c'est Dieu le Père qui va nous être révélé progressivement à l'intérieur de la Bible, c'est le Dieu suprême dont nous a parlé Nébu, c'est le Dieu qui est au-dessus de toute divinité que les hommes pourraient concevoir et il règne. Alors que la terre est bouleversée par des royaumes qui s'élèvent et qui s'abaissent et des conflits contre les saints de Dieu, Dieu est assis et il règne car il préside au destin des hommes et au destin des royaumes, au destin des nations. Et Daniel a eu cette vision extraordinaire d'un Dieu qui règne. Vous savez quoi? Avant d'avoir eu cette vision-là, Daniel le connaissait déjà. Rappelez-vous comment Daniel se comportait lorsqu'il était appelé à comparaître devant un roi. Puis le roi lui disait, « Si tu m'expliques ça, tu vas vivre. Si tu ne me l'expliques pas, tu mourras. Explique-moi ça, je te ferai des présents. » Daniel n'a jamais été vraiment le serviteur d'aucun des rois qui l'a servi, parce qu'il a toujours été le serviteur de celui qui préside au destin des nations. Et trois fois par jour, lorsque Daniel se retirait dans sa chambre, priait en direction de Jérusalem, il priait ce Dieu qui préside au destin d'Israël, même si Israël est en déportation. Il priait celui qui préside, qui élève les rois et qui rabaisse les rois. Et Daniel a eu cette joie extraordinaire d'avoir une vision qui est une image. Dieu est esprit, c'est une image qui a été donnée à Dieu. Je n'ai pas le choix de le voir autrement. C'est une image, Dieu est esprit. Mais Dieu, dans cette image, s'est rendu visible à son serviteur Daniel. Et l'issue, par le fait que ce Dieu-là est assis, est en train de présider, l'issue de l'histoire du monde est donnée à Daniel. La victoire s'en vient, Dieu va juger. Et c'est cette scène-là qu'on a de ce Dieu qui juge. Et c'est une des choses qu'on doit retenir, nous, comme chrétiens, et si tu es en train de chercher, à connaître ce Dieu de la Bible pour dire, est-ce que c'est lui le Dieu suprême? Est-ce qu'il existe ce Dieu-là? Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu qui préside au destin des nations? Sache ceci, ce Dieu-là règne. à travers les troubles de ma vie, quand j'ai l'impression que j'ai complètement perdu le contrôle de ma vie, Dieu est assis et il règne. Dieu siège. À travers les injustices, les cataclysmes, à travers les monstruosités qu'on lit partout, j'aime cette image que John Piper a donnée à quelqu'un qui lui demandait, « Mais où est ton Dieu? » Mon Dieu est dans les cieux et il est en train d'amonceler une montagne de colère lorsqu'il va faire tomber son juste jugement sur l'histoire des hommes et sur chacun des hommes qui ont vécu. Et je dois garder ceci à l'esprit parce que cette vision-là m'annonce que le conflit cosmique entre le peuple de Dieu et le royaume des hommes va continuer. Et je vais avoir besoin de m'en rappeler de ça. Parce qu'il y a des moments où c'est ça qui va me ramener à aller dans mon lieu secret, aller prier mon Dieu puis dire, « Seigneur, à travers ces menaces-là, je peux non seulement prier, mais je peux te louer. Parce que tu règnes. » Amen. Parce que tu règnes. Parce que tu règnes, parce que tu sièges. Et là, il y a un personnage qui apparaît ici de manière absolument grandiose, merveilleuse. Un personnage qui s'avance au verset 13. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Il s'avança vers l'ancien des jours. Il est semblable à un fils de l'homme. On le fit s'approcher de lui. » Et soyez attentifs à ce qui va se passer ici. C'est super important pour comprendre de qui il s'agit. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Mais c'est quoi le message depuis le début du livre de Daniel? Avec tous ces rois qui ont des empires incroyables, des gens qui ils peuvent même prétendre vouloir être adorés. À chaque fin de chapitre, à chaque fois, c'est quoi le message? Dieu, le Dieu suprême, ne partage pas sa gloire. Le Dieu suprême domine sur les nations, sur le destin des hommes. C'est son règne qui est un règne éternel. Et tout à coup, dans cette vision qui est donnée à Daniel, on a cet être qui arrive sur une nuée, qui est comme un fils de l'homme, qui s'approche de l'ancien des jours, et il lui est remis à ce fils d'homme, semblable à un fils d'homme. Il lui est remis ce que Dieu refuse de confier à aucun roi sur la terre jusqu'à présent, dans le livre de Daniel. Qui est ce fils d'homme qui va recevoir des honneurs dignes de Dieu? Tous les grands empereurs qu'on a vus, les rois jusqu'à présent, c'était leur plus grand désir. Une fois que je règne sur les hommes, je veux après que les hommes me disent que je suis Dieu. Je veux qu'ils m'adorent. Et ici, l'ancien des jours, Dieu, le Dieu suprême qui ne partage pas sa gloire, va remettre toute autorité, toute domination et un règne éternel à quelqu'un semblable à un homme, semblable à un fils d'homme. Ça avait déjà commencé à être annoncé, comme j'ai dit tout à l'heure, dans Daniel 2, avec cette pierre qui vient fracasser, et ça va être un royaume. Ce moment-là commençait déjà à être annoncé à cet endroit-là. Ce roi éternel, qui est-il? Qui est ce fils d'homme? Bien, Daniel ne le sait pas. Et donc, si ce matin, je vous expose le livre de Daniel à partir de la perspective de Daniel, on s'arrête là. Notre espoir, c'est qu'un jour viendra un fils d'homme à qui sera confié cette autorité-là. Et ça s'arrête là, les amis. Et Daniel quitte cette vision-là, puis il a reçu tout ce qu'il avait à recevoir. C'est important, j'insiste sur ça. Et voilà, nous, on est chrétiens. On est chrétiens, c'est-à-dire qu'on lit Daniel après que la révélation ait été complétée, qu'elle ait été achevée. Et donc, je ne peux pas lire le livre de Daniel sans prendre en compte la suite de la révélation qui vient. N'importe quel chrétien va lire ça, puis si tu as lu le Nouveau Testament, tu sais très bien que c'est le Fils de Dieu incarné qui est ici. C'est Jésus-Christ qui apparaît ici dans toute sa gloire, sa majesté. une des manières que Jésus c'était un provocateur. Hein? C'était un iconoclaste. Vous cherchez ça, c'est un beau petit mot. C'est un iconoclaste. Et une des manières que Jésus avait de fracasser les idoles des pharisiens et des docteurs de la loi, c'était de se présenter comme le Fils de l'homme. Quand il laissait tomber ça, ceux qui avaient étudié Daniel, « Wow, minute, mon homme, de quoi tu parles? » Et Jésus se présentait lui-même comme le Fils de l'homme. Je vous lis simplement un passage dans Marc 14, 61-62. « Jésus garda le silence et ne répondit rien alors qu'il était accusé. Le souverain sacrificateur, celui qui était la plus grande autorité chez les Juifs à l'époque de Jésus, lui dit, « Es-tu le Christ? Es-tu le Messie? Le Fils de Dieu? Vas-tu nous répondre? » Jésus répondit, « Je le suis. » Et là, Jésus va se promener dans les passages de l'Ancien Testament pour relier des points, relier des éléments que peut-être les docteurs n'avaient pas saisi de la même manière encore. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel, régnant dans son autorité. Certains chrétiens refusent de voir, ils ont de la difficulté à voir dans cette autorité qui est donnée au Fils de l'homme, la première venue de Christ. J'ai vraiment beaucoup de difficultés avec ça. Tout n'est pas accompli. Le conflit cosmique va continuer jusqu'au retour de Christ. Le conflit cosmique va continuer jusqu'à la fin des temps. Mais Jésus-Christ lui-même nous dit dans Matthieu 28, après avoir été crucifié, après être mort, être ressuscité, quelques instants probablement avant de monter au ciel, aller dans la gloire du Père, Jésus lui-même dit, Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus-Christ règne actuellement. Jésus-Christ a reçu toute autorité, tout pouvoir, et il règne dans les cieux actuellement. Dans Philippiens 2, voici ce qu'on lit au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus-Christ règne actuellement. Il siège dans les cieux, tout pouvoir lui a été donné, et il est en train de régner au destin des nations. Et ses saints posséderont le royaume. Daniel est sorti profondément troublé de cette vision, parce qu'il mesurait la guerre qui allait encore être livrée entre les royaumes des hommes et les saints de Dieu. Et nos cœurs devraient être poussés encore plus dans la prière. Nous, on vit après la venue de Jésus-Christ et on sait qu'il règne, on sait qu'il a vaincu la mort, on sait qu'il a vaincu le diable, on sait que tout pouvoir, toute autorité lui ont été donnés. On sait que cette autorité nous est donnée pour annoncer Jésus-Christ. On n'a rien à craindre, on peut aller librement annoncer l'Évangile. Puis on attend son retour, au retour où vraiment le royaume sera consommé, vraiment où son règne sera entièrement établi et tout conflit prendra fin. Mais jusque-là, les conflits vont continuer. Et jusqu'à ce jour, sur la terre, des chrétiens sont persécutés. Daniel a été profondément troublé lorsqu'il a eu cette vision. Et lorsqu'il a vu que les saints de Dieu allaient souffrir, tout de suite, il s'est enquéri. Il a voulu savoir, explique-moi ça encore. Et lorsqu'il quitte cette vision-là, il dit qu'il a le cœur profondément troublé. Je ne crois pas que c'est pour lui-même qu'il est inquiet. C'est parce que Daniel porte sur son cœur cette tristesse de savoir que les saints de Dieu vont souffrir encore longtemps. Et aujourd'hui, sur la terre, il y a plein d'endroits où c'est très dangereux de t'afficher comme chrétien. Il y a des endroits où on tue les chrétiens, on massacre les chrétiens. Et Paul nous exhorte. Paul nous exhorte à prier pour la paix. Vous savez, des fois, avec beaucoup de stupidité, on va dire, « Ah, que viennent les persécutions, ça va purifier l'Église. » Paul les avait connues, les persécutions. Priez pas pour ça, les copains. Vous n'avez aucune idée de ce que vous dites. Allez là-bas. Allez dans ces pays-là annoncer l'Évangile. J'ai été invité à une conférence. À laquelle je ne pourrais pas assister malheureusement, où des pasteurs viennent, c'est une conférence secrète. Des pasteurs viennent d'un pays où tu n'as pas le droit de t'afficher comme chrétien, tu n'as pas le droit d'annoncer l'Évangile. Et ces gens-là servent là depuis 10 ans, voient des gens venir à Christ. Et puis j'ai reçu une invitation, il m'a dit, écoute, vous avez une centaine de pasteurs qui sont invités, vous ne pouvez pas diffuser ça, ça ne va pas être enregistré, il n'y aura pas de suite à ça. On veut vous expliquer c'est quoi notre expérience, comment annoncer l'Évangile dans ce contexte-là. Comprenez, je ne suis pas en train de vous conter des histoires fictives, là, puis on n'est pas là, dans des films de fiction. Là. La réalité, les amis, c'est que notre Dieu règne dans les cieux et notre Sauveur Jésus-Christ règne dans les cieux. Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il est assis à la droite de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné, dans les cieux et sur la terre. Et le mandat nous a été donné à nous d'annoncer le royaume de Dieu et d'inviter tous les hommes à entrer dans le royaume de Dieu. À venir retirer leur couronne pour déposer leur couronne aux pieds du roi des rois, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour leurs péchés. La réalité, c'est que ça ne sera pas toujours simple, ça. La réalité, c'est que vous ne serez pas toujours bienvenus avec ce message-là. Et alors, apprenons de Daniel comment un exilé, quelqu'un qui sait très bien qu'il n'est pas en fin de compte chez lui à Babylone, Babylone, home sweet home, oui et non. Parce qu'en fait, il est en exil. Et l'opposition dans sa vie s'est multipliée à de nombreuses reprises. Mais apprenons de Daniel. Qu'est-ce que peut faire un homme, une femme, qui va rencontrer son Dieu tous les jours dans la prière, qui va le rencontrer pour se rappeler, pour dire à Dieu dans la louange qu'il est Dieu, qu'il règne, qu'il domine. Et que, quelles que soient les circonstances, bien que je sois en exil, c'est possible pour moi de me relever, me tenir debout, puis annoncer ce roi-là, son royaume et son fils Jésus-Christ. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer ce matin. Dans quelques instants, on va prendre le repas du Seigneur, on va faire ce mémorial, Seigneur, que les chrétiens font depuis des siècles, pour se rappeler ce moment où ton corps a été brisé sur la croix, ton sang a été versé, Seigneur, parce qu'au moment de ta mort, au moment de ta résurrection, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le diable, Seigneur. Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, et tout pouvoir t'ont été donné, Seigneur. Seigneur Jésus, on est conscient qu'on ne vit pas sur une terre chrétienne. On ne vit pas dans une société chrétienne où tout le monde se tire dans les églises le dimanche matin pour chanter des louanges. On est quelques-uns à se déplacer sur la route le dimanche matin pour venir te louer, Seigneur, un peu partout dans le monde. Mais tes témoins sont là partout dans le monde pour annoncer ton royaume qui est là au milieu de nous, et nous les inviter les hommes à entrer dans ce royaume, Seigneur. Enseigne-nous avec Daniel à prier, à intercéder pour les frères et sœurs partout qui vivent dans des endroits plus dangereux, où c'est plus difficile d'annoncer le royaume, de prier pour les autorités afin que la liberté nous soit préservée d'annoncer le royaume. Enseigne-nous, Seigneur, avec Daniel à partir avec cette vision, cette révélation, et à aller t'adorer, te célébrer. Reconnaître que tu présides au destin des hommes, Seigneur, et à mon destin, et à notre destin, Seigneur, et que tu règnes, et que toute gloire te revient. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.